Chapitre 14. Ça tourne. Le cinéma. Dans ce chapitre, l'histoire du cinéma, les grands genres, les festivals et récompenses. Le cinéma, c'est avant tout du rêve, l'incessant renouvellement de l'imaginaire, la porte ouverte à tous les univers rêvés ou redoutés. Mais c'est aussi une pratique professionnelle exigeante. Depuis son apparition surprise au Salon indien du Grand Café, boulevard des Capucines, à Paris, le 28 décembre 1895, jusqu'aux révolutions technologiques apportées par les cassettes vidéo, les DVD, le home cinéma. Pour entrer dans ce monde des merveilles, commençons par une petite histoire de ces images mouvantes puis sonores et des grands genres cinématographiques. Vous aimez l'action, l'aventure, les sentiments, l'histoire, le road movie ? Entrez, il reste quelques places au premier rang. Installez-vous confortablement, étendez vos jambes, relaxez-vous. Sur l'écran, les grands films défilent. Recroquevillez-vous devant le Nosferatu de Murnau. Versez une larme pour Titanic. Révoltez-vous avec Macadam Cowboy et reprenez confiance en l'homme avec les 400 coups. Ivre de mouvement, chaviré d'émotion, reprenez votre souffle et vos sens égarés, enfilez escarpins et smoking. Les festivals déroulent le tapis rouge, les récompenses et les applaudissements pleuvent. Mais silence maintenant. L'écran descend, la projection commence. Brève histoire du cinéma. L'invention du cinématographe en 1895 fut un miracle scientifique autant que populaire si l'on en juge par le succès qu'il connut immédiatement à l'époque et celui qu'il connaît encore aujourd'hui. Voici un rapide voyage dans le temps qui nous ramènera à la naissance du cinéma, puis nous fera suivre les principales étapes qui ont jalonné l'histoire de cet art majeur. La naissance du septième art. Nicéphore Niépce invente la photographie au début du XIXe siècle. L'image fixe existe et le rêve d'une image mouvante commence. Les recherches en ce domaine aboutissent à l'invention de la pellicule et de la caméra en 1883 et de l'appareil de projection à partir de 1888. Mais les vrais inventeurs du cinématographe sont les frères Louis et Auguste Lumière, grâce à leur caméra projecteur de 1895. C'est la naissance de l'appareil de tournage et de projection, et les premiers films réalisés sont projetés en public. Tout commence très officiellement le 22 mars de cette année 1895 par une projection à Paris devant les membres de la Société d'encouragement à l'industrie nationale. Le sujet en est la sortie de l'usine Lumière à Lyon. Le public assiste à la sortie des ouvrières, filmée par les frères Lumière sur une durée de 45 secondes. Et déjà un genre est né, celui du film documentaire. La démonstration scientifique est faite, reste à séduire le public. Pour ce faire, les frères Lumière louent en décembre 1895 l'un des lieux les plus prestigieux de la capitale, le Salon indien du Grand Café, boulevard des Capucines, d'une capacité d'une centaine de places. La grande première a lieu le 28 décembre devant 35 spectateurs. Leur sont proposés les 45 secondes de la sortie de l'usine Lumière, mais aussi deux autres films. D'abord, L'arroseur arrosé. Dans ce film, un jardinier arrose son jardin à l'aide d'un tuyau et un enfant coupe l'arrivée d'eau en posant le pied sur le tuyau. Intrigué, le jardinier regarde son embout, l'enfant relâche le pied, le jardinier est aussitôt aspergé. Apercevant le mauvais plaisant, il le poursuit et le punit. L'ensemble dure 49 secondes. Là encore, un genre est créé, la fiction. Œuvre d'imagination ici fondée sur un ressort comique. Le dernier film est Le repas de bébé, où l'on voit un couple nourrir un bébé. Les personnes filmées ne sont autres qu'Auguste Lumière, sa femme et leur fille. Le film dure 41 secondes. Le succès de cette projection est immédiat. La presse raffole de la nouveauté. Tout Paris se précipite et il devient d'un provincial effrayant d'ignorer le cinématographe des frères Lumière. Certains jours, jusqu'à 2500 spectateurs se pressent. Les séances s'enchaînent jusqu'à l'épuisement des projectionnistes. Les salles louées ne suffisent plus. Il faut au cinématographe un lieu permanent adapté à ses contraintes techniques, capable de recevoir les foules de plus en plus nombreuses et curieuses. C'est la naissance de la salle de cinéma. La première est inaugurée le 25 janvier 1896 à Lyon, patrie des Frères Lumière, comme il se doit. Suivent Bordeaux en France, puis à l'étranger, Londres, Bruxelles, Berlin et en juin 1897, New York. Les coûteuses séances à 1 franc cèdent vite la place devant l'affluence à des prix abordables au plus grand nombre. Dès sa naissance, le cinéma est un art populaire. Les premiers films projetés, ancêtres des actualités cinématographiques, sont souvent des documentaires, les premiers reportages. C'est la spécialité de Charles Pathé, dont la société naît avec l'envoi de caméramans partout dans le monde. Mais il arrive trop tard pour le reportage consacré au couronnement du tsar Nicolas II, le 14 mai 1894 à Moscou, filmé par les opérateurs des Frères Lumière et premier vrai grand document d'actualité.
N'oubliez pas, Barbanfouillis sur la Lune. Destiné à reprendre la fabrique de chaussures paternelles, Georges Méliès préfère partir à Londres, s'initier à la prestidigitation, devenir le propriétaire et directeur du théâtre Robert Houdin, du nom d'un célèbre illusionniste. De retour en France, et après l'échec d'une tentative de coopération avec les Frères Lumière, il s'installe à Montreuil, en banlieue parisienne, où il fonde la compagnie Star Film. À la fois producteur, scénariste et décorateur, il tourne dans son studio des centaines de petits films remplis d'imagination et d'effets spéciaux, appelés à l'époque des trucages. Les plus célèbres sont Cléopâtre, sorti en 1899, qui montre la résurrection de la fameuse reine d'Égypte à partir des restes carbonisés de sa momie, d'une durée de 2 minutes. Et surtout, Le Voyage dans la Lune, qui sort en 1902. Adapté du roman de Jules Verne, De la Terre à la Lune, ce film d'environ 15 minutes crée un genre nouveau au cinéma, la science-fiction, tout en reprenant des éléments burlesques et comiques. 6 scientifiques, menés par le professeur Barbanfouillis, joué par Méliès lui-même, gagnent la Lune à bord d'un obus. Les relations avec les habitants du lieu, les Sélénites, commencent d'autant plus mal que l'obus atterrit en se fichant dans l'œil droit de la Lune, que voilà quasiment éborgné. Capturés puis évadés, les membres de l'expédition reviennent sur Terre, où ils sont couverts d'honneur.
L'expressionnisme allemand. Emblématique de l'art du cinéma muet, l'expressionnisme cinématographique n'est pas un mouvement isolé. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il participe de la volonté de rénovation de l'art qui parcourt la peinture, l'architecture, la littérature. Et ce sont les Allemands qui donnent au cinéma ses lettres de noblesse, à tel point que, plutôt que d'expressionnisme seul, c'est expressionnisme allemand qui vient tout naturellement aux lèvres en ce domaine. Contemporain du dadaïsme et du surréalisme, l'expressionnisme au cinéma explore les tréfonds reculés de l'âme et le trouble des personnalités. La folie et le monstrueux en sont les thèmes récurrents. L'âge d'or des films expressionnistes correspond au début de la République de Weimar. Des œuvres comme Le cabinet du docteur Caligari en 1919 de Robert Wien, Le Golem en 1920 de Karl Böse ou Nosferatu le vampire de Friedrich Wilhelm Murnau fleurissent alors. Considéré comme un art dégénéré par les nazis, l'expressionnisme disparaît au début des années 1930. La révolution du parlant. Le cinéma muet laisse ainsi des œuvres impérissables. Qui ne connaît pas, par exemple, La ruée vers l'or, parue en 1925 de Charlie Chaplin? L'accompagnement textuel se fait par l'intermédiaire de cartons nommés intertitres qui apparaissent entre les scènes pour indiquer un dialogue, présenter une situation et exposer les états d'âme des personnages. L'accompagnement sonore est souvent interprété par un pianiste dont l'instrument est installé en bas de l'écran. Cette proximité est nécessaire car l'artiste ne dispose pas de partition. Il joue en fonction de son inspiration et de la nature des scènes qu'il visionne avec les spectateurs. Mais en 1927, apparaît le cinéma parlant. Le tout premier film sonorisé sort en 1927. C'est Le chanteur de jazz, réalisé par Alan Crosland. Il s'agit d'une comédie musicale comprenant 5 chansons. Les premiers mots parlés du cinéma grâce à une improvisation de l'acteur Al Jolson. En effet, les producteurs ne souhaitaient pas qu'il y ait de langage parlé dans le film, Le son devait uniquement servir à la musique et aux chansons, l'histoire étant encore racontée par des cartons. Mais grâce à un dialogue non écrit dans le scénario du héros avec sa mère, le cinéma parlant est lancé. Le cinéma hollywoodien. C'est sur les coteaux des plus célèbres collines du monde, à Hollywood, en Californie, que le cinéma entre pleinement dans l'âge moderne. Durant l'entre-deux-guerres, sous l'impulsion des patrons tyranniques des grands studios, les futurs majors, l'art épouse définitivement les affaires. Pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Marqué par l'apparition du star system qui promeut les vedettes du cinéma et les films comme n'importe quel produit de consommation courante, cette époque dorée du cinéma américain voit fleurir de nombreux réalisateurs et comédiens de talent. Les réalisateurs les plus emblématiques de ce début de XXe siècle sont notamment Ernst Lubitsch ou Frank Capra pour la comédie, John Ford ou Howard Hawks pour le western ou le film policier, ou encore Stanley Donen et Vicente Minnelli pour la comédie musicale, un genre particulièrement florissant à Hollywood qui connaît alors un vif succès auprès du public. Et s'il ne fallait retenir que deux noms parmi la pléiade de stars de cet âge d'or du cinéma américain, ce serait sans doute Marilyn Monroe et Humphrey Bogart, devenus de leur vivant de véritables mythes.
N'oubliez pas, tournage en exil. Casablanca, qui sort en 1942, est l'inoubliable chef-d'œuvre de Michael Curtis, qui met en scène Humphrey Bogart et Ingrid Bergman dans les rôles de Rick et Isa. Sur fond de ville d'Afrique du Nord encore soumise au régime de Vichy du maréchal Pétain, l'intrigue se noue autour du choix cornélien entre l'amour et le devoir. Rick, autrefois amant d'Isa, la retrouve à Casablanca, mariée avec un résistant en cavale. Le choix douloureux, entre aider le couple à fuir et perdre Isa à jamais, ou ne pas les aider et les laisser finir entre les mains des nazis. Le film, en noir et blanc, dure 3 heures. La musique, tout comme le lieu, le cabaret que tient Rick, joue un rôle central. L'une des scènes cultes du film oppose, dans le cabaret, la Marseillaise aux Allemands, chantant Die Wacht am Rhein. Tourné pendant la guerre, à l'aide de nombreux figurants ayant fui l'Europe, le film est en lui-même historique.
Le néoréalisme italien. Durement éprouvé par la Seconde Guerre mondiale, l'Europe perd de son influence artistique, au profit des États-Unis qui, après un entre-deux-guerres déjà florissant, assoient définitivement leur domination sur le cinéma mondial dans les années 1950, en profitant notamment de l'arrivée de la couleur sur les écrans. Toutefois, le vieux continent fait preuve d'une belle vigueur et voit se développer en France, en Italie et ailleurs, des cinéastes de talent. Ainsi, par exemple, de ceux du courant néo-réaliste. Tout comme l'expressionnisme est spontanément pensé comme allemand, le néo-réalisme est italien. C'est en effet en Italie qu'il naît et se développe dès 1943, pour s'exprimer ensuite pendant une dizaine d'années. Le terme même de néo-réalisme explique en partie le projet des cinéastes. Il s'agit pour eux d'ancrer le cinéma dans la vie quotidienne, la vie véritable, et pour ce faire, d'utiliser des personnages de rencontre plutôt que des acteurs professionnels. De même, décors et studios sont délaissés au profit de la rue, du seul décor naturel. La réalisation est marquée par le recours à la narration, plutôt qu'à une progression faite au fur et à mesure des scènes et des situations qui évoluent. L'homme y est prisonnier de son déterminisme social, soumis à des autorités lointaines comme l'Église ou l'État, sans compassion. Les films emblématiques du néoréalisme italien sont ceux de Roberto Rossellini, Rome, ville ouverte, qui sort en 1945, Paysan en 1946 ou Allemagne, année zéro, en 1947. Mais également les films de Vittorio De Sica. Cireur de chaussures, paru en 1946, Le voleur de bicyclette en 1948 ou Umberto D. en 1952. Ou encore le film de Giuseppe De Santis, Riz amer, paru en 1949.
Le saviez-vous ? Week-end à Rome. Rome, ville ouverte, tournée en 1945 par Roberto Rossellini, marque l'acte de naissance du néoréalisme italien. Alors que la guerre n'est pas finie, la caméra de Rossellini met au pied du mur comédiens véritables et passants de rencontres confrontés à un moment de vie sans espoir dans une ville dévastée. la drogue, la violence, la torture y sont le quotidien. L'action se déroule à Rome pendant l'hiver 1944. L'ingénieur communiste, Giorgio Manfredi, qui est joué par Marcello Paliero, se réfugie chez un ami, obtient un contact avec le curé de la paroisse, mais sa maîtresse les dénonce tous aux Allemands. Rome, ville ouverte est un film multiple. Prévu pour être un documentaire, fondé en partie sur des événements réels, réalisé 2 mois seulement après la libération de Rome, il est considéré comme l'acte de naissance du néoréalisme italien. Sa proximité chronologique avec les épisodes mis en scène en fait aussi une vision presque immédiate d'une actualité recomposée.
La nouvelle vague. Au tournant des années 1950 et 1960, apparaît en France un courant de jeunes cinéastes défendant un cinéma d'auteur où le réalisateur prime sur le scénariste, où le film doit davantage exprimer une vision personnelle du monde que raconter une histoire. Le terme « nouvelle vague », qui au départ désigne un courant de la société à la fin des années 1950, désigne un cinéma tourné à l'aide d'une caméra légère qui se déplace avec son porteur. Les extérieurs sont privilégiés sur les studios. Il y a là une volonté délibérée de rupture. Les personnages sont incarnés par de jeunes acteurs et actrices qui font vrai, auxquels les jeunes spectateurs s'identifient sans mal. Parmi eux, Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Léaud, Bernadette Lafont, Anna Karina, Jean Seberg. C'est un cinéma qui se veut proche des attentes d'une jeunesse encore bridée dans le difficile passage à l'âge adulte avant le mouvement de 1968. Les œuvres principales de ce mouvement sont « Paris nous appartient » de Jacques Rivette, paru en 1958, « À bout de souffle » de Jean-Luc Godard, paru en 1959, « Les 400 coups » de François Truffaut, paru en 1959, « Le beau Serge » de Claude Chabrol, paru en 1959, « Le signe du lion » d'Éric Rohmer, paru en 1959, « Le bel âge » de Pierre Caste, paru en 1959, et « L'eau à la bouche » de Jacques Doniol-Valcroz, paru en 1960.
N'oubliez pas, dans la peau d'Antoine Doinel. « Les 400 coups » est un film de François Truffaut, sorti en 1959. Ce premier long-métrage du réalisateur, largement inspiré de sa propre enfance, met en scène celle d'Antoine Doinel, joué par Jean-Pierre Léaud, aux prises avec ses parents. Ses vols le conduisent à être enfermé dans un centre de rééducation. Dans la suite de son œuvre, le personnage d'Antoine Doinel, toujours interprété par Jean-Pierre Léaud, apparaît dans plusieurs autres films. L'amour à 20 ans, en 1962. Baiser volé, en 1968. Domicile conjugal, en 1969. Et l'amour en fuite, en 1970. C'est ainsi un double du réalisateur qui incarne à l'écran ce que celui-ci a vécu ou vit dans la réalité. Par sa technique, son parti pris cinématographique, Les 400 coups est le film emblématique de la nouvelle vague.